Tamani, voici nos informations en français.
8 heures à Bamako, vous êtes à l'écoute des programmes de Studio Tamani. Bonjour et bienvenue à la une de cette édition. Le M5RFP dénonce la gouvernance actuelle au Mali. En meeting hier, le mouvement de contestation contre Ibeka a mis en garde l'État contre la mise en œuvre de l'accord de paix. Le Premier ministre à nouveau devant le Conseil national de transition ce lundi. Mokhtar Wana va se prêter aux questions des membres du CNT 72 heures après la déclaration du plan d'action du gouvernement. Les Nigériens étaient appelés aux urnes hier pour élire un nouveau président de la République. Ce second tour de la présidentielle a opposé le candidat du parti Mohamed Bazoum, candidat du PNDS au pouvoir depuis 10 ans, et l'opposant à Mahaman Ousmane du RDR Tanji. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, mise en onde Mamadi Keita. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, dit non à la mise en œuvre intégrale et accélérée de l'accord pour la paix d'Alger. Les responsables du mouvement l'ont fait savoir hier dimanche lors des meetings au Palais de la Culture de Bamako. Selon eux, la transition est sans boussole ni repère. C'est la première sortie du M5-RFP depuis le renversement du régime d'Ibeka. Moussa Malé Sissoko était sur place.
Ce dimanche 21 février, de nombreux militants du M5-RFP ont effectué le déplacement du Palais de la Culture pour dénoncer, selon eux, la gouvernance de la transition.
L'idée donc que l'M5A, c'est une idée qui a à féliciter, qui avance les pays.
Pour moi, M5, c'est un idéal. C'est pas une question de personne, c'est une question de patrie.
Bon, je suis victime parce que je suis de cœur avec mes sœurs qui ont été victimes. Parce qu'on m'a dit que la démolition va continuer.
Je suis venu
à ces meetings parce que je suis contre la corruption.
Pour le directoire du M5, la procédure de dissolution du Conseil national de transition a été introduite auprès de la Cour suprême. Ses responsables s'insurgent contre l'injustice et la corruption, comme dans un passé récent, Maître Mohamed Ali Batili, membre du comité stratégique du M5-RFP.
Le M5-RFP dit non à l'impunité pour les auteurs de la corruption et toutes les formes de délinquance financière qui ont ruiné et notre pays. Le M5 dit non à la mise en œuvre intégrale et accélérée de l'accord d'Alger. Le M5-RFP dit non à la marche d'une transition sans boussole ni repère, ne sachant où aller.
Ce meeting du mouvement du 5 juin intervient dans un contexte de présentation du plan d'action de la feuille de route de transition. Les débats autour du document s'ouvrent ce lundi 22 février 2021 devant les conseillers du CNT.
8 heures passées de 3 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Après la présentation du plan d'action du gouvernement vendredi dernier, le Premier ministre Mokhtar Wana sera de nouveau devant le CNT ce lundi. Aujourd'hui, place sera faite au débat. En attendant, des observateurs s'interrogent sur la concrétisation des actions annoncées par le chef du gouvernement. Si certains trouvent assez ambitieux ce plan proposé par le Premier ministre, d'autres estiment que le gouvernement de transition doit faire face à l'urgence qui est l'amélioration des conditions de vie des Maliens. Khalifa Goïta.
Faire face à l'urgence et ne pas se disperser, c'est ce que pense Oulematou Sow, présidente de la CAFO. Selon elle, le programme exposé par le Premier ministre sera difficile à réaliser.
C'est difficilement réalisable dans la transition, tout ça là.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de brûler les champs, on fuit avec le bétail.
Aujourd'hui, c'est le pain, le panier de la ménagère. Aujourd'hui, c'est la viande. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Les autorités de la transition doivent faire sien de l'urgence.
Même constat de la part du politologue et chercheur Balandjakite. Même s'il apprécie le contenu du document, il s'interroge sur sa faisabilité pendant la période de transition.
Il ne faut pas en fait faire la politique dont on n'a pas les moyens. Sinon, finalement, on s'expose à des critiques. Ce document est riche, mais c'est proprement digne d'un gouvernement qui a 5 ans devant lui. Moi, personnellement, ça m'inquiète et je doute fort que l'on puisse exécuter ce plan d'action en 18 mois.
Pour Nouhoum Sarr, membre du CNT, l'optimisme doit rester de mise. Il dit avoir confiance au document présenté par le Premier ministre.
Nous estimons que ce plan d'action est teinté de sincérité. La construction d'un État failli, ce n'est pas en 18 mois qu'on peut le faire. Mais en 5 mois, avec ce plan d'action, mais incontestablement, un cap vient d'être fixé. Je ne suis pas inquiet, je suis optimiste.
Ce lundi, devant les membres du CNT, Mokhtar Wana devra s'armer d'arguments pour convaincre sur la réalisation de ce plan d'action dans la période de 18 mois.
Autre sujet, une vingtaine de personnes ont été interpellées suite au saccage du consulat général du Mali en France vendredi dernier. C'est le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali qui l'a annoncé. Selon le département, ces violences ont fait d'importants dégâts matériels ainsi que plusieurs vigiles blessés. Toujours selon le ministère, cet acte est consécutif aux appels récurrents à la violence de certains responsables d'associations des Maliens de France opposés au rattachement entre la carte NINA et le passeport biométrique. Le second tour de l'élection présidentielle au Niger s'est déroulé hier. Plus de 7 millions de Nigériens devaient départager Mohamed Bazoum, candidat du PNDS au pouvoir depuis 10 ans et l'opposant Mahman Ousmane du RDR Tangi. Le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble, nous rapportent des sources nigériennes. Et quels sont les enjeux du scrutin? Notre consoeur Relat Ousmane du studio Kalangou à Niamey nous parle des enjeux de cette présidentielle.
C'est la première fois au Niger depuis l'avènement de la démocratie en 1990 qu'une alternance démocratique se dessine. Lors des élections législatives couplées au premier tour de la présidentielle qui se sont déroulées le 27 décembre 2020, les électeurs ont voté dans le calme pour concrétiser cette transition pacifique. Un moment salué tant par les observateurs nationaux qu'internationaux. Seulement, après l'annonce des résultats globaux provisoires par la CENI, des requêtes ont été introduites par quelques partis politiques aux fins d'annulation de vote dans certaines régions du pays. Cependant, la Cour constitutionnelle les a jugées irrecevables, souvent dans la forme ou le fond. Quant aux défis à relever pour le second tour, les observateurs recommandent la sécurisation des opérations de vote dans tous les bureaux, le respect des droits humains et l'acceptation des résultats qui seront issus des urnes par les différents candidats. Reylet Souma de Studio Kalangou pour le Studio Tamani.
Et dans la région de Tillabéri, un incident s'est produit au cours de cette journée électorale au Niger. 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante ont été tués et 3 blessés graves dans l'explosion d'une mine. Le destin existe-t-il? Notre destinée est-elle écrite? Si les uns croient en cela, pour d'autres, le Créateur n'a jamais prédestiné une créature à faire du mauvais. Pour des théologiens, la croyance au destin est ambiguë dans la religion chrétienne. Certains ne croient pas à l'existence du destin. En revanche, des Jomassiens affirment que l'on peut forger son destin. Le dossier du jour est signé Mariam Maïga.
En écoutant le citoyen lambda, on se rend compte que la croyance au destin est fortement ancrée.
C'est à quoi on est destiné et on y croit, on peut le réaliser.
Le destin, c'est vrai. Si Dieu t'a fait pour quelque chose, si tu ne meurs pas, tu les verras un à un.
Personne n'échappe à son destin.
C'est Dieu qui décide. Personne ne peut rien empêcher.
La question du destin est partagée dans les sociétés à travers le monde. On entend souvent chez les Européens « né sous une bonne étoile », une expression que l'on retrouve chez les Bambara, à Lolo Kagiri. Pour des traditionnalistes, le destin est une recherche perpétuelle de l'avenir. Selon eux, ceux qui croient au destin sont ceux qui croient en une religion révélée. Amadou Djadje Sango, homme de culture.
Il faut quand même être très prudent et l'approcher sur différents plans. Comme je le disais, du point de vue de la religion, du point de vue des libres penseurs, tout ce qui nous arrive dans la vie, un phénomène spécifique qui n'appartient qu'à la société traditionnelle. Bon, je le connais dans le milieu bamana. Il cherche à modifier ton destin. C'est-à-dire, très généralement, en habitant, il a troqué sa vie contre la vie d'un arbre.
Cette pensée de l'homme de culture Amadou Djadje Sango est partagée dans la religion musulmane. Une sourate porte même sur le destin, nous dit Al-Hassan Ba, islamologue.
Le destin fait partie des sciences réservées à Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'a droit en matière islamique de prétendre connaître le destin. Le destin est exclusivement dédié à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il peut souvent donner des signes et peut-être enseigner certaines personnes par rapport à une donnée spécifique. Donc le destin existe bel et bien.
Dans la religion chrétienne, certains prêtres estiment que tout ce qui arrive à l'homme n'est pas dans sa destinée. Chacun de nous vient au monde avec un talent et on est libre de l'utiliser comme on veut. Père Hayo du Centre Foi et Rencontre.
Dieu nous a créés libres, qui nous demande de respecter le commandement, d'être bon, d'être aimant, d'être utile pour le monde. Mais dire que tout le malheur qui m'arrive, c'est Dieu qui a décidé ça d'avance, non, non.
Et pourtant, des géomanciens estiment que l'on peut forger son destin. Pour Adama Traoré di Furonto, géomancien à Ségou, cela passe nécessairement par des sacrifices.
Que ce soit les géomanciens, les marabouts, tous peuvent te conseiller comment trouver des millions, comment être riche. Mais en réalité, ça ne te servira pas à grand chose. Or, si tu pries Dieu et que tu fais certains sacrifices, très souvent tu auras gain de cause.
On dit souvent que l'homme est le boulanger de sa vie, mais on aura tous voulu être né sous une bonne étoile.
Situation de la COVID-19 à présent. La date du dimanche 21 février 2021, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 7 nouveaux cas positifs de COVID, 5 patients guéris et un décès. Ainsi, la situation cumulée est de 8299 cas positifs, dont 6298 patients guéris et 348 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID présentée par Elisabeth Wallet Mohamed.
Le Mali a commandé plus de 8 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. Il s'agit du vaccin AstraZeneca. Le pays devrait recevoir ces doses d'ici fin mars 2021, selon les autorités. Le début de la vaccination est prévu pour le mois d'avril, précise-t-elle. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud a suspendu le même vaccin dans sa campagne de vaccination, dont l'efficacité est jugée à 70%. La décision a été prise suite à la publication d'une étude révélant la limite de cette substance contre le variant sud-africain. Que justifie ce choix des autorités maliennes? Markaché Daou est chargé de communication au ministère de la Santé et du Développement Social, répond aux questions de Khalifa Goïta.
AstraZeneca peut être conservé à une température de plus 2 à plus 8 degrés Celsius, ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de vaccins.
Le vaccin AstraZeneca a montré ses limites dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique du Sud. Or, les autorités du Mali ont commandé le même vaccin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu à faire ?
C'est lié à la nouvelle variante de la maladie à coronavirus, ce qui n'est pas le cas au Mali. Les Sud-Africains ont reçu le vaccin et ils ont commencé à l'administrer pour savoir qu'il y a une couche qui n'est pas très très réceptive de ce vaccin. Non seulement nous n'avons pas la variante, et en plus le taux de contagion en Afrique du Sud est totalement différent de celui du Mali. Donc on ne peut pas comparer les situations.
Les vaccins commandés ne suffiront pas. Est-ce que ceux qui ne seront pas vaccinés, n'est-ce pas une raison de s'inquiéter par rapport à la propagation du virus?
Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de se projeter sur une vaccination de l'ensemble de la population. Les cibles exposées, si nous commençons par ces cibles-là, donc nous sommes sûrs que nous pouvons prétendre aller à une immunité collective. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir la quantité de vaccins pour l'ensemble de la population du Mali. Non, mais c'est plutôt stratégique et c'est en conformité avec les orientations données par l'Organisation mondiale de la santé.
À présent, la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Kodjo Hamsatou Cissé, infectiologue au CHU de Kati.
Allô docteur, se coiffer avec la même tondeuse peut-il être facteur de contamination?
C'est pas comme le VIH où on se dit que si quelqu'un se blesse avec une rasoir et qu'il y a du sang frais là-dessus, si tu arrives à utiliser cette même rasoir avec les gouttelettes de sang qui sont là-dessus, tu peux t'infecter. Pas le même cas. La contamination sanguine n'a pas été démontrée pour le moment. Ici, surtout la transmission avec les gouttelettes, les nasopharyngiens.
C'est ce qui met fin à Actu COVID d'aujourd'hui. Aujourd'hui, merci de l'avoir suivi.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
8h passées de 14 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces infos sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à notre écoute dans un instant, le magazine.